Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. Les mots hier soir d'Emmanuel Macron, publiés sur Facebook. Le chef de l'État est revenu sur le passage à tabac d'un homme noir, producteur de musique, frappé par des policiers à Paris.
Les images ont été vues des millions de fois car l'agression était filmée. Et c'est pour défendre le droit d'informer que des manifestations sont prévues un peu partout en France aujourd'hui contre la proposition de loi sur la sécurité globale.
Nous reviendrons également sur la réouverture des commerces fermés depuis un mois et le reconfinement. Les commerçants doivent respecter un protocole sanitaire strict à l'heure des courses de Noël. Exemple dans une librairie.
Et nous rejoindrons notre envoyé spécial à Erevan où des avions de fret humanitaire sont arrivés. La diaspora arménienne de France et les autorités françaises viennent en aide à l'Arménie qui fait face à un afflux de réfugiés du Haut-Karabakh.
Des manifestants chiliens ont encore réclamé hier soir la démission de leur président, Sébastien Piñera. Ils subissent aussi les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Reportage à Santiago. À suivre dans les matins du samedi, Chloé.
La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, nommée mi-octobre. Nous parlerons évidemment des prisons dont le taux d'occupation remonte en flèche depuis l'été, mais aussi de cette nouvelle mission et de ce qu'elle, Dominique Simoneau, en attend après avoir été journaliste à Libération et au Canard Enchaîné.
Les images ont été vues plus de 13 millions de fois sur Twitter. Jeudi matin, le média en ligne Loopsider publiait cette vidéo choquante où l'on voit un homme noir, 41 ans, producteur de musique, passé à tabac par des policiers dans et devant ses locaux parisiens. Ce n'est qu'hier soir que le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole sur ce sujet qui a déclenché une vague d'indignation. Il a publié un message sur Facebook, message qui prône l'apaisement, Maxence Lambrecq.
Les images que nous avons tous vues de l'agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme, écrit le chef de l'État, qui partage son propos en deux. Une police exemplaire avec les Français, des Français exemplaire avec les forces de l'ordre. Le nécessaire en même temps, puis cette requête, je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent. Sous-entendu, il est abîmé. Et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations. Emmanuel Macron a bien senti que c'était à lui de réagir, de répondre à l'opinion publique. Il ne pouvait pas se taire plus longtemps, concède un député, très agacé par les 48 dernières heures de Jean Castex et Gérald Darmanin. Aucun des deux n'était à la hauteur, capable d'éteindre l'incendie, soupire un ténor du parti. Le président, seul ciment de cette majorité, conclut par une ode aux libertés, celle de manifester, celle de s'exprimer, à quelques heures de nouvelles mobilisations contre la proposition de loi sécurité globale.
Quatre policiers étaient hier en garde à vue. L'enquête judiciaire ouverte mardi vise les fonctionnaires pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, faux en écriture publique et pour des faits de racisme. La victime avait expliqué à la presse que les policiers l'avaient insultée, traitée, je cite, de sale nègre. Les barbares revêtus d'uniformes étaient de sortie ce soir-là, le soir de l'agression, a déploré hier sur France Info l'ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Cette affaire de violence policière n'est pas la première, mais dans ce cas précis, les images devenues virales ont provoqué un choc. Est-ce la faute de quelques mauvais éléments seulement, comme l'assurent certains, ou la preuve d'un racisme systémique au sein de la police, comme l'affirment d'autres? Sébastien Rocher est directeur de recherche au CNRS et spécialiste des questions de police. Pour lui, elle est au moins discriminatoire.
La police française est discriminatoire. Elle ne traite pas les blancs comme les noirs. Elle ne traite pas les riches comme les pauvres. Cette discrimination est endémique. Partout où on a fait des enquêtes, on a vérifié que c'était le cas à Grenoble, à Lyon, à Aix, à Marseille, à Paris. Les enquêtes du Défenseur des droits l'ont vérifié également. Les enquêtes de l'Agence européenne pour les droits fondamentaux l'ont vérifié également. Le travail de l'INED dans l'énorme enquête dite Théo a trouvé les mêmes résultats. Donc il n'y a pas de doute. Ça ne veut pas dire que tous les agents sont individuellement des comportements discriminatoires, mais ça veut dire que dans tous les départements français, on a fait les enquêtes, on a retrouvé le même pattern, le même modèle discriminatoire, et donc on a une police qui est inégalitaire, d'ailleurs qui est perçue comme les Français comme inégalitaire, et à l'échelle de l'Europe, qui est perçue comme une des plus inégalitaires. C'est un problème majeur que le gouvernement n'a pour l'instant, pas voulu reconnaître.
Le gouvernement très critiqué en ce moment. Les images de l'agression du producteur de musique ont été diffusées en pleine polémique sur la proposition de loi Sécurité globale, on l'évoquait. L'article 24 a fait beaucoup parler de lui. Il pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre en intervention. C'est notamment pour dénoncer cela que la coordination Stop Loi Sécurité globale appelle à manifester dans une soixantaine de villes en France cet après-midi. À Paris, la préfecture de police avait d'abord imposé un rassemblement statique, mais l'arrêté a été cassé par le tribunal administratif hier. Parmi les participants, il y a Reporters sans frontières et son président Christophe Deloire.
Reporters sans frontières sera représenté, j'y serai moi-même, tout simplement parce que nous demandons le retrait de l'article 24 de la proposition de loi sur la sécurité globale et des mesures très concrètes pour mettre fin aux violences policières qui sont extrêmement nombreuses, aux violations de la liberté de la presse. Cet article 24, c'est une innovation juridique, telle qu'il est rédigé aujourd'hui, extrêmement dangereuse, puisqu'il prévoit de créer une nouvelle infraction sur l'expression, un nouveau délit d'expression, qui n'est pas fondé sur le contenu, mais sur l'intention, et exclusivement sur l'intention. C'est entrer dans une logique totalement inédite au regard du droit international et au regard du droit français. C'est extrêmement dangereux. Et de surcroît, ça survient dans un contexte où de trop nombreux policiers exercent des violences policières sur la population en général, sur les manifestants, mais aussi des violences ciblées contre les journalistes, des violences actives, des placements en garde à vue, des empêchements de travailler, qui ne sont pas conformes au cadre juridique national. Donc, nous, ce que nous demandons au Parlement, c'est le retrait de cet article et le refus par le Sénat de l'adopter.
Christophe Deloire de Reporters sans frontières. La crise politique s'ajoute à la crise sanitaire. Le virus n'a pas disparu, mais la circulation a été freinée par le reconfinement. Et c'est enfin le grand jour pour les commerçants fermés depuis un mois ou seulement ouverts pour des retraits de commandes. Les clients sont à nouveau autorisés dans les boutiques à condition de respecter un protocole sanitaire encore plus strict. Un client seulement pour 8 mètres carrés. Exemple dans cette librairie parisienne qui se préparait hier pour la réouverture. Ouverture, Anne Lamotte.
Comment est-ce qu'on se prépare?
C'est une petite librairie de quartier, dans le 16e arrondissement, la librairie Fontaine, où Claire Autier, la gérante, a tout dépoussiéré, embellie avec quelques décorations de Noël. On se slalome encore entre les rayonnages qui seront dès ce matin de nouveau installés dehors, avec beaucoup de joie et un peu de tract.
Bah, c'est un peu bizarre comme sensation. Moi, j'ai l'impression de faire une rentrée des classes, en fait. Même si il y a eu le déconfinement déjà en mai, mais c'était pas du tout le même contexte, en fait. Ouais, le fait que là, ce soit le mois de décembre, ce sont des enjeux qui sont quand même énormes, donc on est un peu dans l'expectative, je dirais.
Car les fêtes, c'est environ 30% du chiffre d'affaires de l'année, surtout avec les prix Goncourt et Renaudot qui tombent lundi. Une librairie qui a bien fonctionné ces 4 dernières semaines, grâce aux commandes sur internet, elle a réussi à maintenir jusqu'à 65% de son chiffre d'affaires normal. Mais on attend tout de même full dès ce matin, prévoit Claire, les clients sont impatients.
Toute la semaine, on a eu plein de gens qui nous ont dit on viendra samedi, on attend samedi avec un patience.
Et ça, évidemment, c'est une grande satisfaction.
Surtout, ce qui fait plaisir, c'est qu'on sent que les gens, ce qui nous a manqué à nous, c'est ce qui leur a manqué à eux. C'est le lien, en fait. Parce que là, on a été complètement déshumanisés pendant un mois. On était un mini Amazon chez nous et on a fait de la logistique. Toute la partie plaisir du métier, on l'a pas eu.
En fait, vous faites pas du tout votre métier quand c'est click and collect.
Ah non, pas du tout. On fait pas du tout notre métier.
Claire Autier, qui redevient libraire donc ce matin, même si elle ne pourra accueillir que 10 à 12 personnes en même temps, on sera, promet-elle, extrêmement vigilant.
Tout à fait.
Le reportage d'Anne Lamotte. Nous sommes passés hier sous la barre des 4000 patients en réanimation. Les hospitalisations sont en baisse selon Santé publique France. L'épidémie de Covid-19 a quand même tué 396 personnes ces dernières 24 heures.
France Culture, 8h09, Margot Delpierre, les premiers avions de fret humanitaire français sont arrivés cette semaine en Arménie.
Ils se sont posés à Erevan pour venir en aide aux Arméniens du Haut-Karabakh. Ils ont évacué la province vers l'Arménie voisine après la signature d'un accord de paix avec l'Azerbaïdjan. Environ 120 000 personnes, une situation très difficile à gérer pour l'Arménie, petit pays qui compte 3 millions d'habitants. C'est pourquoi les autorités françaises ont décidé de lui venir en aide. À Erevan, le reportage d'Éric Biegala.
Sur le tarmac de l'aéroport d'Erevan, c'est Christina Aznavour, la belle-fille de Charles, qui préside au déstockage des palettes d'aide. Une aide récoltée par, entre autres, la fondation Aznavour qu'elle dirige et qui est d'abord constituée de vêtements.
Les gens, ils ont quitté leur maison sans rien, en urgence. Et aujourd'hui, ils se trouvent avec les habits de l'été qu'ils avaient sur eux en septembre et ils n'ont plus rien. Ça, c'est l'aide court terme qu'on ramène tout de suite avec les habits chauds, avec les médicaments, toutes les choses de première nécessité.
Également du voyage, le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui ne cache pas que cette opération humanitaire est aussi une manière pour la France de tenter de revenir dans le jeu diplomatique et géopolitique local.
On est avant tout là dans la gestion d'une urgence, mais il y a un certain nombre de points qui restent encore pendants. Quid des modalités de retour des déplacés? Quid du retrait de ces mercenaires syriens amenés par les Turcs? Et bien sur tous ces sujets-là, la France, elle entend poser un certain nombre d'exigences.
Co-présidente du groupe de Minsk, chargée de trouver une solution au conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis 25 ans, la France avait été totalement ignorée lors de la négociation de l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre, obtenu par la seule Russie.
Des milliers de Chiliens ont encore réclamé hier soir la démission du président conservateur Sebastián Piñera. Ils ont dit oui massivement à l'abandon de la Constitution héritée de la dictature du général Pinochet. Mais malgré cette victoire, certains continuent de manifester contre les inégalités sociales comme ils le font depuis plus d'un an. Hier, des affrontements ont rapidement éclaté avec les forces de l'ordre et se sont poursuivis toute la soirée dans la capitale, Santiago. Sur place, Justine Fontaine.
Autour d'une fanfare, les manifestants comparent Sebastián Piñera au général Pinochet. Son rendez-vous était donné près du palais présidentiel pour exiger la démission du président de droite au pouvoir depuis 2 ans et demi. Lunettes noires et visage masqué, ce manifestant de 27 ans préfère ne pas donner son vrai nom. Le président n'écoute pas les demandes des citoyens, donc on s'approche pour faire pression sur lui. Il défend les intérêts des grandes entreprises alors que les gens ont faim à cause de la pandémie, dit-il. Dans une ambiance tendue, les manifestants exigent aussi de pouvoir puiser pour la seconde fois cette année dans leur épargne retraite obligatoire pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Comme en témoigne cette manifestante de 50 ans. Tout ce qu'il nous reste, c'est de piocher dans ce qu'on cotise pour notre retraite, dit-elle, pas convaincue par les aides sociales annoncées hier par le gouvernement pour les familles les plus pauvres. Tous les accès au palais présidentiel sont bloqués par la police. Les forces de l'ordre lancent très tôt des gaz lacrymogènes sur l'Alameda, la principale avenue de Santiago, et dans les rues adjacentes. Jusque tard dans la soirée, les manifestants répondent par des jets de pierre et mettent le feu à des barricades pour empêcher le passage des véhicules de police.
Justine Fontaine, correspondante de France Culture au Chili. L'Iran accuse Israël d'avoir agi comme le mercenaire des États-Unis en assassinant hier un scientifique de Téhéran. Des hommes l'ont pris pour cible alors qu'il était dans sa voiture. La victime était considérée par le Premier ministre israélien comme le père du programme iranien d'armement nucléaire. Qui reconstruira la grande mosquée d'Al-Nouri à Mossoul? L'UNESCO vient de lancer un concours international d'architecture. L'édifice historique avait été gravement endommagé dans les combats pour la libération de Mossoul en Irak. C'est là-bas que l'ancien chef du mouvement État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avait fait sa première apparition en public en 2014. La première phase, le déblaiement, a commencé, Christian Chesneau.
Les experts de l'UNESCO retrouvent encore des charges explosives dans la mosquée. Dans leur retraite, les djihadistes avaient dynamité l'édifice religieux qui date du XIIe siècle sans parvenir à le détruire totalement. Aujourd'hui, malgré des dommages considérables, il faut assembler les pièces de ce joyau de la civilisation islamique encore sur place, explique au téléphone depuis Bagdad Paolo Fontani, représentant de l'UNESCO en Irak.
On a récupéré quand même beaucoup des façades du minaret, beaucoup des briques du minaret. Bon, il faudra reconstruire encore un four à briques. Mais pour les colonnes, par exemple, un marbre de Mossoul de la salle de prière, ils sont un peu tombés comme des Legos et ne se sont pas complètement explosés. Et donc, on les a presque toutes récupérées.
À côté de la mosquée de Nouri, l'UNESCO supervise aussi la reconstruction d'une centaine de maisons historiques et de 2 églises. Au-delà des pierres, faire revivre l'esprit de Mossoul, c'est également donner du travail aux gens, poursuit Paolo Fontani.
Jusqu'à maintenant, on a créé quand même plus de 600 à 700 emplois arrivés à en avoir 3 000, 3 500. On a donc employé beaucoup d'architectes et beaucoup d'ingénieurs. On est en train d'employer beaucoup de maçons et des entreprises locales. Et ça, c'est une partie très importante.
Un chantier symbolique pour tourner à jamais la page noire de Daesh que l'UNESCO espère terminer d'ici 2024.
Le temps en France, la Corse du Sud, la Haute-Corse et les Pyrénées-Orientales sont toujours en vigilance orange pour des orages, des risques de pluie, inondations. Vous n'aurez pas plus de 9 degrés à Amiens et Lyon, 12 à Nantes et jusqu'à 16 degrés à Marseille. 8h40.